France Culture. h13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Avec La guerre n'a pas un visage de femme, elle porte au théâtre les voix des femmes engagées dans l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. La metteuse en scène Julie Deliquet sera mon invitée à partir de 13h. Et tout de suite, c'est le moment critique. Aujourd'hui, mercredi, on parle sortie cinéma, avec d'abord la Palme d'Or du dernier Festival de Cannes, un simple accident de l'Iranien Jafar Panahi, et puis un point sur le cinéma qui nous vient d'Ukraine cet automne, avec Honeymoon de Jana Ozdirna, et les documentaires à 2000 Maître d'Andrivka de Mislav Chernov et l'invasion de Sergueï Losnitsa. Vous écoutez les Midis de Culture, on arrive. Et pour débattre autour de la table, Antoine Guillot, producteur de l'émission Plan Large, le samedi à 13h30 sur France Culture, bonjour.
Bonjour.
Guillaume Aurignac, critique et cinéaste, bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à tous les deux. On démarre fort avec Un simple accident, le nouveau film de Jafar Panahi. On se souvient de l'émotion suscitée par la présence du réalisateur iranien au dernier festival de Cannes, où le film a remporté la Palme d'Or pour la première fois en 14 ans. Jafar Panahi avait réussi à sortir de son pays où il a connu par deux fois l'incarcération. Et c'est en sortant de prison qu'il a imaginé ce scénario. Un jour, un mécanicien croit reconnaître l'homme qui l'a torturé quand il était détenu. Il enlève cet homme, mais pris d'un doute au moment de le tuer, il décide de retrouver d'autres victimes pour confirmer l'identité de son bourreau. S'ensuit un road trip assez rocambolesque en van, avec une photographe, son ex en colère et un couple de mariés. On commence avec quelques mots d'introduction, Antoine Guillot.
Oui, mais pour moi c'est un film totalement remarquable, une Palme d'Or très méritée, remarquable pour sa frontalité, sa finesse, son courage aussi, et les manières toujours invraisemblables, et pourtant il y arrive, et pourtant il tourne, avec lesquels Jafar Panahi réussit à faire cinéma de tout ça.
Guillaume Aurignac.
Oui, alors je suis d'accord sur l'idée que c'est un film féroce, qui est très enragé contre le régime iranien, et aussi très frontal, mais moi je trouve que cette frontalité joue un peu au détriment de la finesse habituelle qu'on trouve dans le cinéma de Panahi.
Alors on va écouter tout de suite la bande annonce d'Un simple accident.
از صبح که دیدمتون فهمیدم یه دونتون این کاره نیستی.
Un simple accident, 12e film de Jafar Panahi. Antoine Guillot, vous parliez des conditions rocambolesques de tournage. Il faut rappeler que c'est un film qui a été tourné de façon clandestine en Iran.
Oui, alors on peut dire qu'il est très entraîné à faire ça. Oui. Sauf qu'auparavant, il le faisait soit à l'intérieur de son appartement, puisque ses cinq films précédents, c'était lui, et ça ne racontait que son incapacité à tourner, et pourtant il tournait. Et donc il racontait soit sa vie reclue dans son appartement, ou alors... dans le dernier, est-ce que je vais franchir la frontière ou pas, ou rester ? Donc c'était devenu le sujet. Et puis entre-temps, il y a eu la prison. Donc l'expérience non seulement de la prison pour lui, de ses interrogatoires, de ses tortionnaires qu'on ne voit pas, qu'on ne fait qu'entendre, mais aussi tous les débats politiques qui ont lieu dans les prisons iraniennes et qui sont en train de construire ce que sera la société iranienne quand le régime sera tombé. Par ailleurs, pendant qu'il était en prison, il y a le mouvement Femme, Vie, Liberté qui se déroule, donc il n'entend que des bribes depuis sa prison, et quand il sort, il découvre un Téhéran complètement transformé. Et le film, pour moi, est à l'intersection de ces deux expériences et essaye de les articuler, et y arrive très bien, notamment parce que, tournant en pirate, il refait les conditions de la nouvelle vague, par exemple, ou du néo-réalisme dont il se revendique beaucoup, type le voleur de bicyclette. Et tout d'un coup, au fond du plan, qu'est-ce qu'on voit passer ? On voit passer des femmes qui, certaines, sont voilées, et puis certaines ne le sont pas. Et tout d'un coup, quand on est habitué à voir du cinéma iranien, on a quand même un choc total, parce que c'est quelque chose que le cinéma iranien ne pouvait pas montrer. Donc ça, c'est une première chose. Et quand je dis que dans, à l'intérieur des prisons, les débats politiques sont en train de penser l'après-régime, c'est exactement ce qu'est ce film. Donc on pourrait lui reprocher d'être trop dialectique, de mettre trop en avant tous ces débats qu'il y a à l'intérieur. Que faire de cet homme qu'on a fait prisonnier? Est-ce qu'on doit se venger? Est-ce qu'on doit le punir? Est-ce qu'on doit le libérer? Mais c'est comme si, c'est très étrange la temporalité de ce film, c'est comme si on était déjà après la chute du régime. Et à aucun moment on se dit, mais en fait ils sont toujours là. C'est d'autant plus troublant que le film commence comme un cinéma post-kiarostamien hyper classique, puisqu'on voit un couple en voiture, et ce couple ce n'est pas encore le mécanicien dont vous parliez, donc fausse piste absolue. On se dit, tiens, il nous refait les graines du figuier sauvage en s'intéressant à la vie familiale d'un des tortionnaires du régime. Quand on a un peu les codes, on le reconnaît assez facilement par la manière dont il est habillé, par sa barbe soigneusement taillée. Sauf que déjà, il se passe quelque chose à l'arrière du plan, parce qu'il y a cette petite fille qui surgit, qui est la fille du couple, qui écoute de la musique, qui danse. Et puis quand on écrase un chien, elle n'est pas du tout d'accord avec l'idée c'est Allah qui l'a voulu, sur la crédit. Il dit non, mais c'est toi qui conduisais la voiture. Et c'est-à-dire qu'il y a déjà à l'intérieur même du régime, plus personne n'y croit à cette histoire, jusqu'au tortionnaire qui n'est pas du tout prêt à aller au martyr en se disant que comme ça il ira directement au paradis. Il y a vraiment ce sentiment que le régime est tombé. Mmh. Et c'est assez incroyable de voir ça, et la manière dont Panahi le représente, déjà ce post-régime et ces questions, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Il va bien falloir qu'on s'entende. On fait peuple parce qu'on a tous été rassemblés dans la répression, quelles que soient les classes sociales, mais comment est-ce qu'on fait pour entrer dans le même plan? Je pense que c'est une des grosses questions de mise en scène de ce film, mettre tout ce peuple dans le même plan et puis se dire, maintenant il faut inventer une nouvelle société.
Mmh. Guillaume Aurignac.
Oui, alors je suis d'accord pour dire qu'effectivement il y a quelque chose de très beau dans le film, qui est de cette manière de filmer cette nouvelle société iranienne qu'on découvre dans les recoins du plan. Effectivement, alors là, il y a des personnages effectivement féminins qui ne sont pas voilés, ce qui est tout à fait saisissant et en même temps qui est montré de manière très ordinaire dans le film, et il en fait pas du tout un cliché pas du tout. Donc c'est la part la plus intéressante du film. L'autre part aussi intéressante, c'est vraiment, je trouve, le début du film étourdissant du point de vue de la mise en scène. Il y a effectivement cette espèce de passage de relais d'un personnage principal à un autre personnage principal. Passage de relais qui est fait purement par la mise en scène, par un choix de champ contre champ et de lumière qui d'un seul coup s'éclaire, de son. Enfin, c'est vraiment son minimalisme contraint par le fait qu'il tourne clandestinement depuis 2010, l'a rendu son cinéma, enfin sa mise en scène exceptionnelle. Vraiment, je trouve que c'est une sorte de metteur en scène de série B minimale, vraiment très très pointu, très aiguisé. C'est très beau à voir. Après, j'ai un petit problème avec le film néanmoins, que je trouve par ailleurs quand même très beau dans l'ensemble. C'est que il y avait un double véhicule dans son cinéma depuis 2010, depuis qu'il filmait clandestinement. Ce double véhicule, c'était à la fois un véhicule, l'habitacle d'une voiture, ou alors l'enfermement dans un appartement ou une maison qui lui permettait de protéger en fait sa caméra. Et l'autre véhicule, c'était lui-même, parce qu'il avait besoin d'une toute petite équipe, donc il jouait lui-même dans ses films, il se mettait en scène. Et du coup, je trouvais que notamment dans son précédent film, Aucun ours, qui pour moi est un film grandiose, vraiment un chef-d'œuvre, ça crée un dilemme moral étincelant, qui est un dilemme moral sur lui-même. Est-ce qu'il allait franchir géographiquement la frontière et partir en exil? Mais aussi, est-ce que lui-même n'était pas quelqu'un qui manipulait ses comédiens pour créer des fictions à l'intérieur du cadre fixé par le régime? Il y avait une sorte d'interrogation morale un peu vertigineuse. Là, l'interrogation morale qu'il a, qui est une sorte de droit à la vengeance, à partir du moment où on sent que le régime va s'effondrer, parce que effectivement, le régime n'est pas tout à fait effondré. Il y a quand même des plans où on voit la corruption endémique de la société iranienne.
À chaque rencontre avec un personnage, il y a de la corruption.
Il y a de la corruption. C'est fascinant à voir. À voir à quel point le système est complètement nécrosé de l'intérieur par cette corruption-là. Et donc la question, c'est de savoir, quel est le droit à la vengeance qu'on peut s'autoriser à avoir sans devenir nous-mêmes finalement les bourreaux que nous avons subis, dont nous avons souffert. C'est un vrai dilemme moral, c'est très angoissant, mais c'est pas vertigineux. Il y a pas une sorte d'effet de cascade. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qu'on devient? Est-ce que moi-même j'ai pas participé au régime? Voilà, il y a pas ce truc-là. Il y a une sorte de. Alors c'est probablement lié tout simplement à son histoire, le fait qu'il ait été emprisonné pendant 6 mois, qu'il ait rencontré des prisonniers politiques à l'intérieur de la prison et qu'il veut finalement leur donner une image, leur donner un récit à ces prisonniers politiques-là. Et du coup, cet aspect-là va contre l'aspect vertige moral qu'il y avait dans ses précédents films, je trouve. Et du coup, il y a une sorte de théâtralité un petit peu. Une fois qu'il agrège, ça devient un film choral, une fois qu'il agrège sa petite troupe de comédiens, il y a une sorte de passage de relais de la parole qui fait très théâtre. Et on arrive dans une sorte de performance. Et notamment l'avant-dernière séquence, que je ne dévoilerai pas, devient une sorte de performance de comédien qui, moi, m'arrache un petit peu au film, à l'aspect néo-réaliste, au mélange documentaire et fiction qu'il y a dans son cinéma.
Mais c'est peut-être le cinéma de demain qu'il nous montre, c'est ça?
C'est basculement successif, moi, qui m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que, très clairement, cette partie vertigineuse et d'intériorité de ces films précédents, elle est soldée par quelque chose qui est arrivé à ce pays et à Panahi en même temps. Donc maintenant, il s'agit d'inventer autre chose. Et le film cherche beaucoup les formes qu'il va pouvoir donner maintenant pour faire ça. Et effectivement, il y a cette partie théâtrale, en attendant Godot est très directement cité, au bord de ce trou dans le désert, mais qui renvoie aussi à un film du grand maître et ami de Panahi qui était Kiarostami avec Le goût de la cerise. Ça fait 2 palmes d'or d'un coup avec le même plan. C'est assez étonnant. Et moi, je trouve ça très, très passionnant. Précisément qu'il essaye de trouver, et ça marche complètement, qu'il trouve une forme dialectique qui est moins d'ailleurs sans doute les débats qui se passaient dans la prison, il y a de ça au départ, mais les propres débats moraux internes à Panahi. Je pense que Panahi lui-même se pose la question de ça, tout en prenant acte, et le dernier plan, je ne le dévoilerai pas non plus, qui est très ouvert dans les interprétations. J'ai rencontré au moins 10 personnes qui ont chacune leur version, leur compréhension de ce qui se passe là. C'est que malgré tout, cette expérience restera à jamais en soi. Ce son terrible qu'est celui de la guibole, puisque le tortionnaire a perdu sa jambe en Syrie et sa prothèse grince. Et voilà, c'est à ce grincement qu'on le reconnaît, qu'une idée de cinéma complètement géniale. C'est très Hitchcockien dans cette idée. Ce son sera toujours là. Quoi qu'on fasse, même après, l'expérience carcérale, l'expérience de la torture est quelque chose qui vous marque à jamais et donc qui peut vous transformer à jamais. Il est donc d'autant plus important de débattre avec les autres, mais déjà avec soi-même, de qu'est-ce qu'on fait de ça. Est-ce qu'on en fait quelque chose de positif ou de négatif, ou en tout cas, et surtout, comment ça va impacter la société à venir, puisque même si ça s'arrête demain, on se relève pas comme ça de 40, plus de 40 ans, 45, peut-être ça sera 50 ans d'expérience carcérale à l'échelle d'un pays.
Guillaume Rignac, un dernier mot peut-être.
Oui, un dernier mot pour dire qu'en fait, il y a une question qui est effleurée dans le film et qui, pour moi, un peu trop effleurée, qui est la question de la coexistence avec ses propres bourreaux. À partir du moment, effectivement, comme dit Antoine, on sent que la société est en train de s'effondrer, qu'il y a une nouvelle société va apparaître. Comment on fait pour coexister avec ces bourreaux-là? Cette question-là, elle est effleurée dans la séquence de l'hôpital, qui est pour moi une très très belle séquence, où effectivement, le personnage principal va s'occuper de la famille de son supposé bourreau. Et à ce moment-là, on se dit... Voilà, il faut coexister avec les bourreaux, comment on fait? Est-ce que c'est possible? Là, je trouve que c'est la meilleure part du film. Malheureusement, elle est un peu trop effleurée dans l'ensemble du film.
Un simple accident de Jafar Panahi, le film représentera la France aux prochains Oscars. Et je précise que Jafar Panahi sera dans Plan Large avec vous, Guillaume, samedi à 13h30.
Antoine.
Antoine Guillaume, j'allais dire. Bravo. Allez.